Partiel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale d'Alain Brice. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Jean de Tapie qui va évoquer pour nous ce qui se passe dans le Loir-et-Cher et la Sarthe. Il faut savoir que Jean de Tapie est président des Amis du Perche du Loir-et-Cher et de la Sarthe et qu'il a animé l'été dernier une promenade dans le Perche orné. Jean de Tapie, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, pouvez-vous évoquer pour nous cette promenade dans le Perche de l'Orne ?
C'était plus qu'une promenade parce que c'était tout d'abord l'Assemblée générale des Amis du Perche du Loir-et-Cher et de la Sarthe. Cette assemblée s'est déroulée fort agréablement dans la salle des fêtes de Préau, ce qui nous a conduit par la suite à aller visiter l'église de Préau, qui a la particularité de posséder des vitraux représentant des poilus de la guerre de 14 tués au combat. Il y a parmi eux une trentaine de personnes, dont un ancien prêtre originaire de Préau. Nous avons quitté l'église.
Alors, il faut dire que cette église est particulièrement belle, qu'il y a aussi un endroit où on peut aller maintenant qui a été creusé. Et ça, c'est vraiment très, très joli. Nous avons également vu à la mairie les reproductions que le maire nous avait gentiment montrées.
Effectivement, dans la salle du conseil de la mairie, il y a une série de photos reprenant les portraits de ces poilus avant et après restauration. On peut se poser un instant sur ces visages, car ce ne sont pas des visages anonymes. Patrick Barre, préalien, écrivain et photographe, a fait un ouvrage qui présente ces garçons, leur origine, on voit s'ils sont mariés, célibataires, on connaît leur métier, ce sont des gens qui vivent. Et pour nous, lorsque on rentre dans l'église et qu'on vient admirer les vitraux, ce ne sont pas des portraits froids, brutaux, on est loin du compte de ce point de vue-là.
Oui, et je dois dire que si on va le soir à Préau, eh bien, les vitraux étant illuminés de l'intérieur, c'est absolument magnifique de voir ce village illuminé par les vitraux qui sont fort beaux, ça je dois le dire. Alors après Préau ?
Alors après l'église de Préau, nous nous sommes dirigés vers la Lubinière, qui nous a été présentée par son propriétaire Bernard Labbé. C'est un manoir du XVIe, bien entendu, qui a été magnifiquement restauré, tant de son bâti que pour ses jardins.
Mais vous le connaissiez puisque il faisait partie du patrimoine des Amis du Perche.
Alors, je suis un peu jeune pour ça, malgré mes cheveux blancs, et je n'ai pas connu le siège des Amis du Perche au manoir de la Lubinière, mais je savais parfaitement que ce manoir avait été notre siège pendant quelques années. Nous sommes d'ailleurs par la suite allés à Seton.
Alors, à la Lubinière, il y a eu un pique-nique fort agréable, puisqu'il faisait un temps merveilleux, et c'était sur les pelouses du jardin.
Absolument. Et nous avons quitté ces pelouses pour le manoir du Plessis, à Dansé. C'est un petit manoir qui a la particularité, contrairement à l'ensemble des manoirs percherons, de ne pas posséder de tour-escalier. C'est un escalier intérieur. Sa petitesse ne le rend pas du tout réduit, puisqu'il représente, il était entouré de 900 hectares, ce qui représente l'importance des gens, des seigneurs qui l'habitaient. Le Plessis et les jardins.
Il n'a plus les 900 hectares, mais un très beau jardin.
Les 900 hectares ont été éparpillés depuis le XVIe siècle. Et par contre, les jardins sont là, ils ont été remis en valeur. On devine l'emplacement de douves mouillées et sèches. Tout ça commenté avec passion, comme dans tous les manoirs, par le propriétaire, architecte de son état.
Toujours dans l'Orne, donc, autre manoir.
Dans l'Orne, nous nous sommes rendus à Bois-Guillon. C'est un manoir en cours de restauration qui appartient à Lionel Zinsou, qui est propriétaire du manoir voisin que nous avons également visité. Bois-Guillon est en cours de restauration. Son histoire nous a été présentée par M. Ivar, qui est historien connu du Perche, de même que le manoir voisin, également propriétaire de Lionel Zinsou. Nous avons ensuite été accueillis à L'Or Marin.
Oui.
L'Or Marin, c'est un manoir qui vit, c'est un manoir qui appartient à un garçon qui s'appelle Albin Christin, qui est antiquaire, sa femme est décoratrice, artiste.
Il a une très belle collection de lampes.
Il a des collections de lampes, il a des passions pour les ferronneries,
oui.
Et il organise assez régulièrement, dans des locaux qu'il a d'ailleurs restaurés, du 17e, des expositions temporaires.
Oui.
Je sais qu'il y en avait une qui portait, je me semble, sur des photos. Ou un truc.
Oui,
je n'ai pas eu l'occasion de le voir, et le temps. Mais L'Or Marin est un manoir très chaleureux et très vivant parce que il y a une famille qui vit, qui travaille, qui finalement on se retrouve un peu dans l'état d'esprit du XVIe siècle puisque ces demeures étaient des demeures rurales habitées par des gens y travaillant.
Oui, exactement.
Et remplissant par ailleurs, si nécessaire, des fonctions de défense.
Alors, la journée se termina par un feu d'artifice, puisque c'était un dîner dehors à Chêne-Gallon.
Alors, traditionnellement, nous clôturons nos journées par un dîner, et effectivement, nous avons été à Chêne-Gallon. Chêne-Gallon, c'est une magnifique propriété perdue au milieu des bois, dans le dos de la forêt de Belém. C'est un ancien prieuré grand-montain, magnifiquement entretenu par des charmants propriétaires qui nous ont reçus comme en amis. Et nous avons, je crois, passé une agréable soirée agrémentée et par les murs et par le jardin, qui est fort bien entretenu lui aussi.
Alors ça, c'était le passé, si je puis dire. Mais je sais que maintenant, vous avez beaucoup de projets, en particulier une conférence.
Beaucoup, c'est dire beaucoup. En réalité, nous avons une conférence le vendredi 27 novembre à Mont-Doubleau, salle de l'Étoile, à 18h30. Cette conférence se situe dans les vocations des Amis du Père, c'est-à-dire la promotion de l'histoire et de l'art. Promotion de l'histoire, puisque nous allons traiter de la résistance dans le Perche Gouët et Vendômois. Et promotion de l'art, parce que les recettes de cette conférence vont nous servir à sponsoriser, pour une partie bien modeste, la restauration des fresques de l'église du Plessis-Dorin.
Alors parlez-nous de cette église du Plessis-Dorin.
Alors l'église du Plessis-Dorin est une toute petite église qui se caractérise par un cactoire, c'est-à-dire un porche avancé
qui permettait
aux gens de se tenir à l'abri avant les cérémonies,
mmh.
et aux dames de caqueter.
Voilà.
Cette église possède des fresques qui datent du début du siècle, mais que l'humidité, le temps avait pas mal abîmées. Et elles ont fait l'objet de restaurations soigneuses depuis un certain nombre d'années. Il doit y en avoir une quinzaine environ. Et sur ce nombre, il doit en rester 5 ou 6 à terminer. Par ailleurs, le chœur de l'église lui-même a été l'objet de soins de restauration. Le tableau du fond du chœur a été repris et remis en valeur. C'est une église qui, d'ici quelques années, va se retrouver entièrement remise en l'état.
Oui. Donc, en fait, ça fait combien de temps que vous faites des travaux pour cette église ?
Je ne serais incapable de vous répondre car c'est mon prédécesseur, ce n'est pas les Amis du Perche qui diligentent ces travaux, c'est une association amie. Mais oui. C'est dans la vocation des Amis du Perche d'aider des associations qui se consacrent à la restauration du patrimoine percheron.
Donc vous faites vraiment une bonne œuvre en aidant à ce que cette église soit complètement restaurée.
À l'image de nos amis Auréliens, de nos amis de l'Orne qui ont fait le même type d'opération pour des églises de leur département.
Eh bien, j'en viens à la conférence sur justement la résistance. Alors, vraiment, comment ça s'est passé dans le Perche Gouë et le Perche Vendômois? Parlez-nous de cette résistance.
La résistance dans le Perche Gouë et le Perche Vendômois n'est pas une résistance d'exception. On a connu la résistance dans l'Orne, on l'a connue dans l'Eure-et-Loir, oui. Avec des points forts tels que le maquis de Plainville. Eh bien, le Loir-et-Cher, c'est-à-dire le Perche Gouë et le Perche Vendômois, n'est pas resté à côté de l'action. Et dès 1939 jusqu'à 1944, ils se sont impliqués dans la résistance.
Alors, quand vous dites « ils »,
les gens, des gens comme vous et moi,
oui.
Qui avaient une passion pour la France, pour la patrie, se sont engagés et ont dit non. Non, on ne veut pas être matraqué par l'envahisseur. On veut que notre pays demeure notre pays et on va se battre pour y arriver.
Alors, il y a eu donc des lieux vraiment stratégiques.
Il y a eu des lieux stratégiques, mais en réalité, c'est un phénomène de petits pas. Il est évident qu'en 1939, ce n'est que la guerre n'était pas déclarée, et des gens se sont émus de ce qui se passait en Allemagne et des programmes que proposait le chancelier Hitler. 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle n'a pas été entendu, mais des tracts l'ont fait connaître et des gens ont décidé de s'engager au service de leur pays dans des actes de résistance. Alors ces actes, eh bien, ils étaient divers et variés. Ça a été la création de faux papiers. Ça s'est fait dans l'Orne avec l'abbé Poulain. Il y a eu des actes de récupération de parachutes, de récupération d'armes. Mais tout ceci s'est fait, quand je disais, à petits pas, c'est-à-dire que les initiatives privées se sont regroupées pour s'inscrire dans des mouvements locaux, de villes, de villages, et puis s'inscrire dans des mouvements à caractère national. Les actions qui ont été menées par la résistance dans cette région ont été intensives dans la période 43 40 et 44, plutôt 43 et essentiellement avec le débarquement. Les parachutages ont été multiples. Alors, ça a été des parachutages avec deux natures. Les premiers, c'était du parachutage de matériel. Mmh. Et l'autre, malheureusement, c'était la récupération d'aviateurs dont les avions avaient été tirés par la flak. Ces aviateurs, une fois récupérés, il fallait les loger.
Ah oui, et bien sûr.
Ils peuvent venir de loin, parfois, d'ailleurs. Il y en a qui arrivaient de la Ferté-Vidame et même plus loin. Et un adjudant de gendarmerie astucieux s'est dit « Où est-ce que je pourrais mettre ces gens à l'abri ?» Eh bien, rien de mieux que de les mettre proche des unités allemandes. Et il les a cachés en forêt de Fredval. La forêt de Fredval avait un dépôt de munitions allemands important, mais avait également de multiples caches. Ce secteur n'était jamais attaqué, tant par l'aviation alliée que par la résistance, les Allemands se sentant à l'abri, les aviateurs récupérés l'étaient également.
Eh bien, je crois que nous aurons tous envie d'aller à cette conférence. Voulez-vous nous rappeler le lieu, Jean de Tapy?
Alors, cette conférence aura lieu donc le 27 novembre à 18h30, salle de l'Étoile à Mont-Doublon.
Un grand merci à vous et à bientôt donc à Mont-Doublon. Merci Jean de Tapy.
Merci Christiane Blas.
Autre sortie? Les Amis du Perche de l'Orne organisent leur conférence d'automne le dimanche 22 novembre, 14h30, à l'espace Octave Mirbeau, à Rémalard. vous pourrez écouter le général Moreau, qui est invité des Amis du Perche de l'Orne. Pour ce faire, je reçois Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne. Il est également président du comité scientifique de la Fédération. Jean-François Suzanne, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, vous avez beaucoup de chance de recevoir le général Moreau. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Tout d'abord, le général Moreau, il est ingénieur général de l'armement. Durant de nombreuses années, il a travaillé au sein du GIAT, c'est-à-dire le groupement interarmé pour la fabrication d'armes pour nos armées françaises. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup exercé de fonctions en responsabilité en France. Et depuis maintenant une petite dizaine d'années, il s'est retiré dans notre perche ornée. Il réside à Rémalard et il a accepté, durant cette période des commémorations, d'intervenir sur l'un de ses sujets de prédilection, le canon 75. Dernière information, c'est très important puisqu'il a dirigé la fabrication, la conception de l'armement du char Leclerc qu'utilisent actuellement nos armées un peu partout dans le monde.
Ah oui, alors ça c'est beaucoup de chance, vous le connaissez depuis longtemps ?
Alors, il est adhérent de l'association des Amis du Perche, il vient régulièrement à nos manifestations et par l'intermédiaire de mon vice-président Jackie Lecomte, eh bien, il s'est proposé à intervenir sur un sujet sur l'armement qu'il connaît. Oui. Bien sûr, ça ne sera pas que Percheron, ça sera à envergure nationale. Oui. Mais je pense que c'est un sujet qui a le mérite d'être découvert et présenté aux différents adhérents ou non adhérents dans le dimanche 22 novembre à Rémalard.
Oui, alors ça, c'est beaucoup de chance parce qu'effectivement, vous le soulignez, les gens qui ne sont pas adhérents peuvent quand même venir.
Tout à fait. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une société qui reste enfermée sur elle-même. Tous les Amis du Perche, toute association confondue, organise pendant une petite semaine ces trois conférences d'automne. Je rappelle, le 21, la veille, ça sera à Nogent-le-Rotrou sur une conférence de Jean-Léo Dugaste sur les chevaux percherons et chevaux de trait.
Oui, ça, c'est, voilà. Je ne savais pas. Donc, 21
novembre, donc le samedi, à Nogent-le-Rotrou.
Oui.
Le 22, donc c'est l'Orne. Et puis, qu'on s'appelle Jean de Tapie a invité Bernard Malcor à s'exprimer sur la résistance dans le Loir-et-Cher.
Voilà. Et ça aura lieu
donc le 28 novembre à Mont-Doubleau, dans la salle de l'Étoile.
Voilà. Donc, trois dates importantes et trois lieux aussi à découvrir,
tout à
peut-être.
Fait.
Et en fait, qu'on soit d'une fédération, d'un département ou d'un autre, on peut très bien...
Tout à fait. C'est, puisqu'on est adhérent des Amis du Perche, donc c'est ouvert à tout le monde. Ou voire même, si on n'est pas adhérent, l'objectif, comme ici...
Il y a un droit d'entrée ?
Non, c'est libre et gratuit. Et donc, l'accueil est à 14h30 et la conférence commencera à 15h précise.
Alors, on peut dire à nos jeunes amis aussi que c'est presque un devoir pour eux de venir écouter ces conférences parce que c'est de l'histoire.
Tout à fait. Et puis, ça permet de comprendre que ce soit, par exemple, des jeunes collégiens ou des lycéens ou des étudiants, et parfois moins jeunes, parce que c'est des faits qu'on ne connaît pas forcément, de découvrir cette période ou de redécouvrir. C'est vrai que nos anciens, je me souviens, mon arrière-grand-père, avait évoqué peu cette période. Aujourd'hui, par d'autres témoins, on peut découvrir ce qu'ils ont subi, qu'ils ont connu sur le front, par exemple à Verdun, ou la bataille des frontières en 1914, ou la Champagne en 1918, etc. Oui.
Alors, je sais que vous êtes professeur d'histoire.
Oui.
Et est-ce que, justement, vous enseignez la Première Guerre mondiale ?
Tout à fait.
En quelle classe ?
En troisième, c'est le deuxième chapitre de début d'année.
Oui.
Mais aussi en classe de première, où là on voit plutôt l'expérience de guerre d'un point de vue des civils, mais aussi des militaires, et non pas l'aspect chronologique, c'est-à-dire comment ils ont vécu le conflit, quand, en tant que soldats, lors des périodes de repos, les bombardements, le traumatisme, mais aussi les courriers envoyés par leurs proches à l'arrière.
Donc, j'incite nos très jeunes amis qui sont en troisième, en seconde et en première, vraiment de venir écouter ces conférences parce que ce sera en fait leur sujet qu'ils auront peut-être au baccalauréat.
Tout à fait, ou au brevet, ça peut tomber dessus.
Voilà, comme on en parle beaucoup, ce serait bien possible que ce soit au programme, donc... Moi, je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent à ces conférences parce que, d'une part, c'est l'histoire de leur
de leur famille, presque. Ils ont bien un grand-père, une grand-mère qui ont été concernés. Et puis aussi, c'est scolaire. Alors, profitons-en quand on a la chance d'avoir... Et c'est gratuit, donc toutes les chances. Donc, un général qui connaît bien le fait...
Son sujet, en plus.
Qui vient faire cette conférence.
Tout à fait. Alors, la conférence, donc le thème, c'est canon 2,75. Pourquoi 75? C'est du 75 mm, c'est-à-dire la taille du calibre, la taille de l'obus qui est projeté. Alors, à l'époque, on envoyait quand même jusqu'à 6 km, voire 8 km.
Donc, c'est un obus qui mesure...
Alors, à peu près 40 cm, plus la douille. Et donc, il est projeté de l'arrière.
Alors, 75,
c'est le diamètre du canon, en fait. Il était tiré par nos chevaux. On peut s'imaginer qu'à l'époque, c'était surtout des chevaux de trait. Pourquoi pas des chevaux percherons? C'était d'ailleurs un sujet à travailler dans les années à venir.
Oui, oui.
Et ensuite, ils étaient prépositionnés dans des zones de conflit, dans des zones
des
de bataille.
Photos.
Alors, nous avons quelques photos, notamment dans les actes du colloque des Amis du Perche, le Perche de 1914 à 1918, puisqu'en fait, on a un percheron qui s'appelle le général Malcor, qui a dirigé, commandé l'artillerie de la 4e corps d'armée. Ça veut dire en fait cette région militaire qui touchait nos 4 départements, dont 2 qui nous sont plus chers, l'Eure-et-Loire et l'Orne.
Oui.
Donc lui qui habitait le Plessis de Rhin présidait l'artillerie dans des différentes régions de France lors de batailles.
Oui, alors ça va être très intéressant aussi. Donc, il faudra aussi aller à cette conférence au Plessis de Rhin.
Tout à fait.
Parce que là, on évoquera ce général Malcor.
Oui, ça sera un sujet qui sera à connaître. Puisque honnêtement, moi, j'ai eu la chance de découvrir lors du colloque l'année dernière, en 2014. Et Bernard Malcor, donc, qui est son arrière-petit-fils, montre comment il manage ses hommes, en fait, comment il les dirige. L'objectif, ce n'est pas de les tuer. Au contraire, il veut les sauvegarder, utiliser équitablement l'armement. Et on s'aperçoit qu'à niveau national, à l'époque, ce n'était pas le fait de tous les généraux. Par exemple, entre 1914 et 1918, il y a eu 17 500 canons qui ont été fabriqués par l'armée française et les 2/3 ont été détruits par l'ennemi. C'est-à-dire que si les canons ont été détruits, forcément, les hommes ont été atteints. Et j'imagine à coups de projectiles également. Et en sachant qu'à l'époque, c'était un canon qui était révolutionnaire. Pourquoi? Par sa portée, également par la précision.
Par sa portée, alors vous avez dit combien de kilomètres?
De 6500 mètres à 8500 mètres. Donc de 6 km à 8
km.
C'est quand même très important. Également, il a ce canon a projeté 200 millions d'obus. 200 millions, c'est énorme. Rien que la bataille de Verdun, c'est 30 millions d'obus.
Et ils étaient fabriqués où, ces obus?
Alors, notamment donc, à l'arrière. Et d'ailleurs, la guerre a déstabilisé l'économie française et la fabrication de ces obus ou d'autres industries ont été décentralisées, déplacées vers le sud de la France, notamment le sud-ouest, la région de Toulouse, ont fabriqué notamment des avions, entre autres, mais aussi du côté de Bourges, là où on a le siège, encore aujourd'hui, quelques centaines d'unités du GIAT, dirigé par le général Moreau, ou encore vers la vallée du Rhône.
Ah oui.
Là, c'était plus à chimie qu'on travaillait, notamment, vous avez tous connu, Rhône-Poulain que dans le passé, une ancienne marque qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, on voit que ces usines ont été déplacées à cause du conflit.
Oui. Alors, donc on a beaucoup parlé du canon de 75.
Oui.
Vous pouvez encore évoquer d'autres...
Alors, à côté, en fait, c'est une manifestation avec plusieurs partenaires. Et notamment, avec la Fédération des Amis du Perche, nous allons profiter de l'instant pour présenter les actes du colloque, puisqu'en fait, ça sera la sortie officielle dans l'Orne. Et aussi, l'association Belou Patrimoine, qui est présidée par Guy Costil et aidée par Yves Cochric, ont réalisé l'année dernière une exposition sur les monuments aux morts, mais non pas civils, mais paroissiaux. Et en fait, eux, ils ont travaillé sur la paroisse de Rémalard, qui est extrêmement étendue. Comment étaient représentés? Est-ce que nous avons les mêmes noms? Est-ce que certes, en fait, je rappelle que dans les monuments civils sont inscrits les morts pour la France, c'est-à-dire ceux qui ont été jugés, honorés d'avoir combattu pour leur pays. Alors que Pour les monuments paroissiaux, au contraire, on inscrit tout le monde, que ce soit descendants ou les proches, etc.
Ah oui.
Pour
se Alors rappeler. Ça, c'est très important, chers amis auditeurs, parce qu'il y a donc deux sortes de monuments aux morts.
Oui,
on
ne
le
fait.
Sait pas assez. Les monuments aux morts nationaux, donc
oui.
L'État, mais là, on ne met que...
Les collectivités, en fait, les voilà. communes à l'époque.
Oui.
Hein.
Et on ne met que ceux qui sont vraiment morts...
C'est-à-dire qu'ils ont été... Ils sont morts parfois après 1919 parce qu'ils étaient blessés, donc ils n'ont pas été inscrits, alors que les monuments paroissiaux, les personnes cotisaient auprès de la paroisse pour pouvoir inscrire le nom de leurs défunts, même si c'est en 1925 ou 1930, c'est-à-dire qu'ils sont décédés parfois après suite de leurs blessures. Donc là, on va avoir une exposition avec de nombreuses photographies, des textes explicatifs.
Alors là, ce sont les monuments morts paroissiaux.
Paroissiaux, de la paroisse de Rémalard. Et je trouvais que dans cette période de commémoration, où en fait, en 2015, ça va être la dernière grande manifestation pour nous, Amis du Perche, d'assembler ces deux associations, Amis du Perche d'un côté, et puis une association locale au service de la patrimoine, comme oui. Bellou Patrimoine, et donc de travailler ensemble, en commun, et tout sera dans l'espace Octave Mirbeau, l'exposition dans le hall d'accueil, et puis bien sûr dans la salle, la conférence en elle-même.
Alors vous aurez combien de photos de monuments aux morts? Est-ce que vous les avez fait agrandir? Est-ce que...
Alors,
c'est parce qu'on a tous envie de mieux connaître cela. C'est quand même assez nouveau, cette idée-là, et
oui,
je crois que nos auditeurs auront vraiment envie de venir voir ça.
C'est à peu près une vingtaine d'églises qui ont été travaillées, parce qu'en plus, ils ont travaillé sur à la fois le monument aux morts au niveau de la pierre,
oui.
du vitrail aussi, je pense notamment
oui,
à
Préau
du Perche, ce magnifique et gigantesque monument aux morts vitrail, et puis c'est illustré par des textes explicatifs.
Alors vous voulez dire que par exemple à Préau, il y a ce monument aux morts religieux, et puis il y a un autre monument aux morts
qui se trouve en extérieur,
qui est civil.
Voilà.
Et est-ce que dans toutes les villes, il y avait, enfin, des communes, il y avait les deux, ou est-ce que c'est très rare qu'il y ait les deux?
Alors, il peut y avoir les deux. Par contre, ce qui est beaucoup plus rare, c'est de trouver des monuments aux morts civils au sein des églises. Nous avons quelques-uns, oui. Alors, pourquoi? Parce que parfois la commune avait très très peu d'argent et donc, au lieu de faire un monument, c'était une stèle, une plaque. Et donc, parfois, on trouve... Un
exemple
Là, ce n'est pas du tout dans le Perche. Je pense à la commune du Plantier, à côté de Saint-Ascolas.
Oui.
Donc là, il y en
c'est
a
quand
un.
Même pas loin.
C'est pas très loin, ça se touche.
Oui.
Et là, c'est vraiment très marquant, puisque dans un lieu religieux, nous avons le drapeau tricolore qui apparaît. Alors que je rappelle, depuis 1905, nous sommes sous l'égide de la séparation des
Mais
églises
oui.
et de l'État.
Oui.
Mais, comme l'a expliqué aussi Robert Ruffray dans le colloque donc, de 14-18, eh bien, cette guerre... entre guillemets, à rapprocher l'Église de la population. Logiquement, la séparation aurait dû aller beaucoup plus loin. Et au contraire, étant donné que les prêtres sont intervenus, soit aumôniers, soit brancardiers, soit infirmiers, certains ont lâché même la soutane pour les combattre, et bien conséquence, l'Église s'est rapprochée de la population, et aussi la population s'est rapprochée de l'Église, et surtout de ces hommes de foi qui ont vécu ensemble cette période extrêmement douloureuse.
Oui, ça va être vraiment une exposition très très intéressante.
Tout à fait.
Et ça fait longtemps qu'elle est en gestation, cette...
Alors, en fait, elle a été présentée la première fois l'année dernière, au mois d'août 2014, et elle était, on veut dire, itinérante dans la paroisse de Rémalard. Et puisque, en fait, les associations travaillent ensemble, Guy Costil nous a proposé, que j'ai accepté, bien sûr, c'est de nous prêter son exposition et montrer les travaux qu'ils ont réalisés.
Alors, on peut peut-être terminer sur le livre qui va paraître. On en a, nous, un peu parlé, déjà. Mais peut-être vous pouvez nous redire le titre, l'auteur,
oui.
et aussi où on peut trouver ce livre que je trouve vraiment très intéressant et aussi d'un format que j'apprécie beaucoup.
Alors, c'est donc Le Perche de 1914 à 1918. C'est un ouvrage collectif réalisé par 16 intervenants différents. Et donc, il est en librairie, maison de la presse, mais également sur le site internet www.amiduperche.fr et sera également visible et consultable le jour de notre conférence.
Un grand merci, Jean-François Suzanne. Je rappelle que notre émission pourra être écoutée à nouveau sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Merci, Christiane Blanc.
Merci, Jean-François Suzanne.